Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce micro-rebelle hebdo en date du vendredi 24 avril 2020 à 18h. Micro-rebelle hebdo, c'est tous les vendredis à 18h donc, sur micro-rebelle.fr et sur l'appli de la Franf. Par ailleurs, nos amis de Radio PFM 99.9 dans l'Arrajois nous rediffusent le vendredi à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Nous les en remercions et nous saluons leurs auditrices et auditeurs. Enfin, un rappel, toutes nos émissions, tous nos reportages sont podcastables et téléchargeables sur micro-rebelle.fr. Pour aujourd'hui, bien entendu, ce micro-rebelle hebdo ne vous proposera évidemment pas d'agenda social et culturel et fera donc une large place aux chroniques et reportages de nos salariés et bénévoles concernant l'actualité, donc autour de la crise sanitaire en cours. L'actualité, bien sûr, c'est la perspective du 11 mai, date annoncée pour le déconfinement, tout au moins pour un déconfinement progressif. Cette annonce traduit assez clairement les priorités du gouvernement. Il faut reprendre le travail. Dit autrement, il faut restaurer les profits des grandes entreprises. D'ores et déjà, sans attendre le 11 mai, le travail a repris dans des secteurs non essentiels. C'est par exemple le cas près de Valenciennes avec l'usine automobile Toyota de Honin. Et tout cela va s'accélérer jusqu'au 11 mai, et bien sûr après le 11 mai. La mesure la plus frappante, c'est bien sûr la réouverture des écoles, avec un objectif relativement transparent, permettre aux parents de reprendre le boulot. C'est le sens de la réouverture des établissements scolaires, de la maternelle au lycée, alors que les facs, notamment, ne réouvriront qu'en septembre. En matière sanitaire, la réouverture des écoles pose un certain nombre de problèmes dont on n'a pas les réponses. Globalement, les enfants sont asymptomatiques. Le virus n'est pas dangereux pour eux. Moins de 10 enfants de moins de 15 ans sont morts du coronavirus dans le monde. Tout en sachant que le virus se transmet très vite entre enfants, pour lesquels le respect des gestes barrières est pour le moins compliqué. Mais une question demeure, à laquelle on n'a aujourd'hui pas de réponse. Les enfants sont-ils contagieux ? Et le virus qu'ils se transmettent à l'école, peuvent-ils le transmettre à leurs parents, à leur famille ? Le principe de précaution n'aurait-il pas dû prévaloir en laissant les écoles fermées ? C'est ce que de nombreux scientifiques recommandaient et c'est ce qui inquiète de nombreux parents. Deuxième sujet d'inquiétude, les transports. La reprise du travail, la reprise de l'activité économique, pour de nombreuses personnes, passe par le train, le bus, le métro, le tramway. Avec la plupart du temps, beaucoup de monde dans ces transports. C'est un habitué du train Lens-Lille qui vous parle et qui peut vous le confirmer. Alors qu'il est, rien n'est prévu, hormis le port du masque grand public. On ne va pas revenir ici sur tout ce qui concerne justement les masques, qui ont fait couler tellement d'encre et de salive. En sera-t-il de même concernant les tests et le dépistage? Macron a annoncé un dépistage uniquement pour les personnes symptomatiques, ce qui offre peu d'intérêt, puisqu'on sait qu'elles sont déjà malades. En l'espèce, les tests confirment qu'il s'agit ou non du Covid-19. Par contre, il serait judicieux de tester les personnes en contact avec la personne infectée, la famille, les collègues de travail, le voisinage, etc. On se doute bien que la décision de mettre en œuvre un dépistage restreint est guidée par la faible capacité de production de ces tests. À sa manière, Politis, cette semaine, nous en offre une synthèse amusante au travers du dessin proposé par Aurel. On y voit Emmanuel Macron juché sur un tonneau sous le titre « Le 11 mai, on rase gratis ». Macron promet ainsi quatre choses. Premièrement, on aura des gants. Deuxièmement, on aura des masques. Troisièmement, on aura des respirateurs. Et enfin, quatrièmement, et je serai de gauche. Restons justement avec le Politis de cette semaine et ce titre en couverture « Au bout du confinement, la pauvreté amplifiée ». En page intérieure, plusieurs articles y sont consacrés, avec ces explications, extraits. « Depuis le début du confinement, de nombreuses personnes peinent à remplir leurs placards. Une insécurité alimentaire grandissante contre laquelle collectifs et associations se battent. Et le journal évoque plusieurs situations de précarité ou de grande précarité. Par exemple, les étudiantes ou étudiants qui n'ont pu rentrer chez eux, notamment les étudiants étrangers. Les restaurants universitaires ayant fermé, il ne leur est plus possible, comme avant, d'avoir un repas complet pour 3,30€. D'autant que beaucoup ont perdu leur emploi dès le début du confinement. Résultat, ils et elles sont confrontés à un mal qui grandit, la faim. Au-delà des étudiants, Politis évoque les familles et personnes isolées, confrontées à une situation financière tendue. Auparavant, ces personnes vivaient de petits boulots, d'intérim ou venaient de lancer une petite activité. Aujourd'hui, ces sources de financement se sont taries, alors que dans le même temps, les points de distribution alimentaire et les épiceries solidaires fermaient leurs portes. Même tendance concernant des familles qui bénéficiaient des tarifs sociaux pour la cantine scolaire des enfants. Politis évoque enfin un phénomène que nous connaissons bien dans le bassin minier, le cas des familles vivant en squat ou en camp de fortune, et notamment les familles roms. D'une manière générale, ce sont des familles qui vivent de la récup ou de la mendicité. Ce sont par exemple des activités de glanage, de recherche de ferraille à revendre. Avec le Covid-19, ces familles sont complètement privées de ressources. Et Politis titre dans un autre article « Si les associations n'étaient pas là ». C'est bien entendu particulièrement vrai dans le bassin minier. Concernant justement les familles roms sur le territoire, nous pouvons évoquer la mobilisation constante des bénévoles et militantes et militants au sein du collectif Fraternité Rome Bassin Minier 62. Chaque semaine, rendez-vous est pris au lag à Liévin pour confectionner des colis alimentaires qui sont portés dans les squats de Liévin, Los Anguels, Lens, Arne, Méricourt, Salomine, Hénin-Beaumont, Billy-Montigny, Auby, Fouquier-les-Lens, Neuilly-les-Mines, Noyelles-sous-Lens, etc. Ce sont ainsi près de 300 personnes, dont de nombreux enfants et bébés, qui peuvent bénéficier d'une solidarité locale prise en charge par des habitantes et habitants du territoire, avec le soutien de la Banque alimentaire et le soutien financier des contributrices et contributeurs que le collectif a pu mobiliser. Ainsi, pour citer encore Politis, ce sont les associations qui font le travail pour couvrir les besoins primaires, eau, nourriture, hygiène. Un peu plus loin, enfin, Politis revient sur ces inégalités sociales et précise, je cite, « Ce n'est bien sûr pas tant le confinement qui creuse les inégalités que l'effet soudain surexposé par cette réclusion des 4 décennies de néolibéralisme durant lesquelles l'enrichissement continu d'une minorité est allé de pair avec l'appauvrissement constant des plus démunis. » Et de poursuivre, concernant la présidence de la République actuelle, je continue à citer, « Depuis son élection, Emmanuel Macron fait aux pauvres une guerre sans merci, alors que par exemple, il diminue le montant des aides personnalisées au logement, les APL, qui leur étaient chichement allouées, avant de supprimer, quelques mois plus tard, pour le grand bénéfice de quelques dizaines d'ultra-riches, l'impôt sur la fortune, l'ISF. » Fin de citation. Et dans le monde, La Voix du Nord titre « Vers une catastrophe humanitaire prévient l'ONU ». Extrait. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU a prévenu que le Covid-19 risquait de provoquer en 2020 un doublement du nombre de personnes au bord de la famine, induisant une catastrophe humanitaire mondiale. Au-delà de l'ONU, La Voix du Nord évoque l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a prévenu, je cite, que la crise a eu un effet dévastateur sur les travailleurs et les employeurs au travers des pertes massives sur la production et les emplois dans l'ensemble des secteurs. Fin de citation. Effectivement, on peut par exemple indiquer qu'aux USA, ce sont 16 millions de travailleuses et travailleurs qui ont rempli une demande d'allocation en 3 semaines et que ce chiffre représente sans doute la moitié des licenciements. Toujours concernant les inscriptions au chômage, au Canada, ce sont plus de 2 millions de personnes qui se sont inscrites en 2 semaines et pratiquement 1 million en Grande-Bretagne. Selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, pour une semaine de 48 heures, c'est 195 millions d'équivalents temps plein qui pourraient disparaître, dont 125 millions en Asie, 24 en Amérique et 20 en Europe. En Afrique, l'Union africaine annonce 20 millions d'emplois supprimés sur le continent. Bref, la crise sanitaire s'imbrique parfaitement dans la crise économique. Et la question qui se pose maintenant, c'est de savoir qui va payer cette crise économique. Première réponse possible, comme toujours, depuis que le capitalisme est capitalisme, ce sont les salariés, les précaires, les retraités, etc. Deuxième réponse, par nos luttes, retirons aux capitalistes tout pouvoir de nuisance. C'est sans doute le bon moment de mûrir cette deuxième réponse. Nous poursuivons notre petit parcours dans l'actualité et la presse avec la chronique d'Olivier.
Le site Contretemps consacre un article de la conférence de Daniel Tannureau sur les enjeux politiques qui se nouent actuellement entre crise du coronavirus et crise climatique. Daniel Tannureau est agronome, militant écosocialiste en Belgique, auteur entre autres de l'impossible capitalisme vert. Il était de passage à l'hôtel de Guines il y a un an lors du premier forum social régional organisé par Colère du Présent. Extrait. Dans une société individualiste basée sur l'illusion de toute puissance, il a fallu un virus pour nous rappeler le sens des limites et de la mesure. Pour nous rappeler notre vulnérabilité et mettre en évidence la fragilité des systèmes complexes que nous avons construits. Nous ne contrôlons pas la nature, nous en faisons partie. De même, nous faisons face à des limites techniques et énergétiques. Quand les frontières se ferment, ou comme pour bientôt, quand le pétrole se met à manquer, c'est toute la chaîne industrielle qui s'effondre. Enfin, on réapprend l'humilité et le bon sens sur le besoin de services publics, de relocalisation et de solidarité informelle. Nous sommes donc dans un scénario connu, comme celui du changement climatique, pour lequel il y a plus de 50 ans que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme en disant que si nous continuons à envoyer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on va déséquilibrer complètement le système climatique et que ça pourrait avoir des conséquences absolument dramatiques. Là aussi, les gouvernements n'en tiennent absolument pas compte. Comme on le sait, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter. Sauf maintenant, avec la pandémie, elles se réduisent substantiellement. Le comble de l'absurdité ou de l'aveuglement des décideurs politiques, c'est que concernant la pandémie, en 2003, des chercheurs belges et français sont arrivés à la conclusion que le coronavirus constitue une catégorie très stable de virus et qu'il serait donc assez facilement possible de trouver un traitement qui serait valable non seulement pour le SRAS, mais aussi pour d'autres coronavirus qui viendraient après. Ils estimaient le coût de ces recherches à 200 ou 300 millions d'euros. Il leur fallait bien évidemment des subsides publics qu'ils n'ont pas obtenus, parce que les gouvernements considèrent que la recherche sur les médicaments appartient à l'industrie pharmaceutique, alors que celle-ci ne fait que de recherche pour le bien de l'humanité ou la santé publique, mais pour le profit. Ils lui font donc un marché et des clients solvables. Or, l'épidémie de SRAS était passée, il n'y avait donc plus de marché, plus de clients, donc on a fait des recherches à ce sujet. Cela illustre la marque de l'attitude politique des décideurs et des responsables économiques face aux grandes menaces écologiques dont la pandémie fait désormais partie, à savoir cette incapacité à prendre en compte ce qui est connu et les avertissements qui leur sont lancés. Cette surdité ou cet aveuglement sont d'abord dus au fait que les décideurs politiques sont complètement subordonnés au diktat des impératifs capitalistes du profit à court terme. Ils ont donc le nez dans le guidon. Deuxièmement, il y a une raison plus idéologique. Ils sont eux-mêmes intoxiqués par l'idéologie du capitalisme, l'idéologie néolibérale, et considèrent que les lois du marché sont plus fortes que les lois de la biologie pour le virus ou que les lois de la physique pour ce qui est du changement climatique. Ils considèrent que les lois de leur système économique sont des lois naturelles supérieures et que le marché va tout régler en cas de problème. Or, on constate plus que jamais que le marché ne règle pas tout. Que l'on compte commander des masques en Chine pour protéger les soignants chez nous, mais que la Chine est bloquée en raison de la pandémie, il n'y a plus de masques et on ne protège pas les soignants ni la population. C'est aussi simple que cela. Le journal Marianne nous raconte cette semaine qu'au MEDEF, les choses sont claires. Au boulot, les confinés. Reclus dans son manoir du Croisic, en bordure de l'océan, Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, a lancé un appel pathétique. La reprise, c'est maintenant. Vérification faite, il ne parlait pas de la reprise de l'épidémie, mais de la reprise de l'économie. En somme, le confinement est obligatoire pour tous, sauf pour ceux qui sont priés de se rendre au boulot, séance tenante. Dans la foulée, Geoffroy Roux de Bézieux a précisé qu'il faudrait remettre en question le temps de travail sur le tapis. mais pas celle des dividendes, afin de ne pas mélanger torchons et serviettes. Ainsi, les salariés en chômage partiel, qui se prennent la crise en pleine tête, la paieraient une seconde fois demain, en sorte qu'ils n'oublient pas que le jour d'après pourrait ressembler à celui d'hier, et même d'avant-hier. Au nom de quelle logique peut-on intimer à certains de rester à la maison et à d'autres d'en sortir à leur risque et péril? A-t-on le droit de jouer avec la santé des personnes à qui l'on demande de reprendre du service, alors que les officiels multiplient les mises en demeure et que certains maires vont jusqu'à instaurer le couvre-feu dans leur ville? Il est tout de même étrange de réglementer le jogging et d'appeler les salariés à retourner à leur poste comme si de rien n'était.
Reportage maintenant sur Micro Rebelle. Quel accès à l'avortement en temps de confinement? Peut-on avoir recours à l'IVG pendant le confinement? La réponse est oui. Pourtant, les professionnels observent une baisse des demandes. Un reportage signé Elsa.
L'IVG, interruption volontaire de grossesse ou avortement, est un droit inscrit dans la loi. Entre tabou et jugement moral, il est déjà difficile en temps normal d'y avoir recours, à moins d'être entouré et soutenu. Les délais légaux sont les suivants. Jusqu'à 12 semaines de grossesse pour une IVG par aspiration qui se déroule en hôpital sous anesthésie locale ou générale. Et jusqu'à 5 semaines de grossesse pour une IVG médicamenteuse qui se pratique sans anesthésie, chez soi ou à l'hôpital. Outre les délais qui peuvent être contraignants, d'autres paramètres sont vécus comme compliqués selon les situations, pour les personnes mineures par exemple. On imagine que le confinement rend difficile l'accès à l'avortement. Alors que la députée socialiste Laurence Rossignol avait recommandé une prolongation des délais d'intervention le temps du confinement, le gouvernement avait refusé la proposition pour finalement annoncer le 15 avril un allongement du délai de réalisation de l'IVG médicamenteuse jusqu'à 7 semaines. Pour en savoir plus sur la situation du recours à l'IVG en temps de confinement, nous avons questionné Aline, conseillère conjugale et familiale au planning familial du Pas-de-Calais, association féministe qui accueille et échange sur les questions de sexualité, de contraception, d'IVG, de violence, de plaisir.
Mes missions au sein du planning familial 62 actuellement sont les missions de conseillère conjugale et familiale et chargée de mission. Donc, conseillère conjugale et familiale, c'est au planning 62, ça consiste en l'accueil des personnes qui viennent pendant la permanence pour une demande qui concerne toutes les questions de sexualité au sens large. Donc ça peut être une demande de test de grossesse, une demande de contraception d'urgence, ça peut être une demande d'IVG, une demande concernant des violences sexuelles ou autres, une demande concernant des questions autour de l'orientation sexuelle, autour de l'identité de genre, autour d'un dépistage, des risques éventuellement pris, des questions autour du désir, du plaisir. On essaye d'aborder les questions de sexualité pas seulement sous l'angle du risque, mais sous l'angle positif, constructif, sous l'angle du plaisir. Voilà, donc c'est ça le métier de conseillère actuellement au planning familial 62. C'est dans l'accueil et aussi dans le fait de rencontrer les gens à l'extérieur, dans des actions collectives, des actions de sensibilisation, d'information, de formation, avec des jeunes, des moins jeunes, en milieu scolaire, non scolaire, dans des cadres formels ou non formels, on est très attaché au principe et à la dynamique d'éducation populaire. Donc, rencontrer les gens et transmettre un savoir, échanger sur les savoirs, c'est aussi être capable d'échanger du savoir dans des contextes pas forcément institutionnels, des contextes, ça peut être un contexte festif, ça peut être, voilà, c'est assez varié en fait, ça peut être Un stand, ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, ça peut être dans une classe, mais une classe, on essaye de mettre en place plutôt une dynamique pas descendante, plutôt horizontale sur les échanges des connaissances, parce qu'on part du principe selon lequel tout le monde a des connaissances, des savoirs, des expériences dont on peut toutes et tous faire profiter aux autres, et c'est intéressant d'échanger autour de ça. Voilà. Donc ça, c'est le travail de conseillère conjugale et familiale au planning 62. Ensuite, on est 3 salariés actifs actuellement à être chargés de mission également. Ça veut dire qu'on s'occupe de mettre en place des projets propres aux questions du planning. Hein, donc ça va être des demandes de subventions pour aller trouver de l'argent pour pouvoir mettre en place ces projets justement sur tout le territoire du Pas-de-Calais, pouvoir aller rencontrer les gens et leur permettre aussi de venir vers nous, que ce soit à l'extérieur des locaux ou à l'intérieur des locaux. Voilà.
Comment est-ce que vous travaillez au planning familial pendant le confinement ? Est-ce qu'on peut toujours vous contacter pour les raisons habituelles ?
Au planning, on s'est organisé pour le confinement, en fait. Donc depuis le, en fait, on a démarré le 16 mars, hein, le lundi 16 mars dernier, avec des permanences à distance, donc permanences téléphoniques. On accueille plus sur place. On est un établissement d'information et de consultation et de conseil familial. Donc on n'est pas un centre de planification. On ne peut pas faire d'accueil médical. Donc nos missions sont essentiellement concentré autour de l'information, de la sensibilisation et de la motivation aussi, éventuellement de création de groupes militants autour des questions de sexualité au sens large. Donc en tant que ICCF, on a pu mettre en place une permanence à distance par téléphone pour permettre encore aux personnes de nous contacter, poser toutes leurs questions.
Parmi les raisons pour lesquelles des personnes peuvent vous contacter ou venir vous voir, il y a la demande d'information et d'accompagnement pour l'accès à une contraception et à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse ou avortement.
C'est inscrit dans la loi française actuellement. Les questions d'IVG notamment sont des questions d'urgence. L'IVG, c'est un soin urgent, donc on considère que c'est important de maintenir les services qui font des IVG. Et donc, nous, on continue d'informer sur toutes les questions que nous posent les personnes, sur les questions de sexualité. Mais les urgences vont évidemment concerner les IVG, les violences et les contraceptions d'urgence aussi éventuellement. Alors, contraception au sens large en fait, hein, pas uniquement les contraceptions d'urgence, parce que forcément, si on n'a pas une contraception régulière, si on n'a pas la possibilité de renouveler sa contraception, une pilule, un implant, un stérilet ou autre, on a beaucoup plus de chances de risque d'avoir une grossesse non voulue. Donc voilà, c'est aussi des questions qui sont assez urgentes, et c'est pour ça que on peut toujours nous contacter pour les raisons habituelles. Maintenant, on ne va pas pouvoir délivrer de préservatifs puisque ça se passe au téléphone. Voilà.
Pendant le confinement, est-ce que vous observez, toi et tes collègues, une différence dans les demandes par rapport à ça ? Et à ton avis, pourquoi ?
Depuis le début du confinement, on a en effet observé une différence, clairement une baisse hein, de contacts, d'appels concernant, enfin une baisse globale hein, des sollicitations venant de l'extérieur. Et puis du coup, une baisse de sollicitations concernant la contraception et l'IVG. Pourquoi nous on pense qu'il y a une baisse, on pense que les femmes, enfin, elles nous le disent aussi, hein, elles craignent d'aller à l'hôpital parce que c'est là où elles vont être peut-être potentiellement plus exposées au virus, et donc elles n'ont pas envie ni de contracter, ni d'être porteuse saine pour contaminer quelqu'un d'autre. Enfin voilà. Donc ça, c'est pour le coup La communication autour de ça a plutôt bien marché, je trouve. autour de la question de la contamination. Sauf que du coup, bah, pour ces questions qui sont des questions urgentes, donc l'accès à l'IVG, l'accès à la contraception également, et ben on constate une baisse. Alors, on pense qu'il y a une crainte d'aller à l'hôpital et c'est confirmé par les personnes qui nous le disent, hein, clairement. Mais il y a également aussi le sentiment du fait de moins d'importance, en fait. Comme si les questions propres aux femmes étaient... Mais de toute façon, c'est quelque chose aussi qui est quand même un peu dans une culture ambiante. C'est-à-dire que on va peut-être considérer que les questions de procréation, de contraception, d'IVG, eh ben, ça va être moins important que lutter contre la propagation du virus. Or, c'est pas ni plus ni moins important, c'est tout aussi important. Et nous, on insiste auprès des personnes pour leur dire que leur vie, leur choix, leur avenir, c'est très important, c'est tout aussi important que le fait de se protéger d'un virus et de protéger les autres. Évidemment, ça, c'est très important. Mais une grossesse non désirée, ça a des impacts sur toute une vie.
Peux-tu nous parler de pourquoi le confinement rend plus difficile l'accès à la contraception et à l'IVG ? Et d'après toi, est-ce que tu penses que pendant le confinement, il pourrait y en avoir plus, des demandes de contraception ou d'IVG ?
Alors, pourquoi ce confinement il rend plus difficile l'accès à la contraception ou à l'IVG ? Parce que on peut éventuellement reléguer cette problématique individuelle, bon, qui est quand même une problématique collective et politique, hein, mais on peut éventuellement, pendant le confinement, constater qu'il y a des personnes qui vont reléguer ça au plan secondaire. Voilà, c'est moins important, c'est pas l'urgence par rapport à l'urgence sanitaire qui se déroule actuellement, sauf que en fait derrière cette urgence sanitaire du Covid, on va découvrir une autre urgence sanitaire derrière qui sera effectivement celle de tous les sujets de santé qui n'auront pas été traités pendant ce confinement. Voilà, donc ça on verra, hein, sûrement au déconfinement des effets boomerang qui auront sûrement un impact pas très très joyeux, j'espère le moins possible, mais faut pas se faire d'illusions. Ensuite, pourquoi ? Eh ben, parce que il y a aussi, voilà, ce confinement, il nous amène à devoir signer les attestations pour sortir. On est quand même beaucoup beaucoup plus contrôlé pendant nos sorties actuellement, et donc ça peut être aussi très intimidant. On a peur de passer par des humiliations en présentant une attestation indiquant que on va à des rendez-vous. Alors, il n'est pas indiqué que c'est pour une IVG, hein, sur l'attestation, sauf que voilà, c'est indiqué soins ne pouvant pas être différés, etc., etc. Donc, c'est des soins urgents qui peuvent effectivement pas être reportés après le confinement, parce qu'après, on dépasse les délais légaux en France. Pour rappel, les délais légaux en France, hein, pour une IVG, c'est 12 semaines de grossesse ou 14 semaines d'aménorrhée pour une aspiration et pour une... Pour une IVG médicamenteuse, c'est 5 semaines de grossesse ou 7 semaines de grossesse quand ça se fait dans un établissement si ça se fait dans des établissements médicaux, en fait, hôpital notamment. Voilà. Mais du coup, voilà, il y a la peur d'être contrôlé, la peur d'être humilié éventuellement par une personne qui va vous contrôler et puis vous dire, bah oui, c'est quoi votre soin urgent? Alors que là, on le rappelle, hein, ça c'est important, c'est du secret médical. Il y a aucune raison de dire pourquoi j'ai un rendez-vous médical là ou là. On a eu des personnes qui se sont faites refouler sur la route alors qu'elles allaient chercher des serviettes hygiéniques. C'est-à-dire qu'on leur a dit que c'était pas des achats de première nécessité. Donc pour l'IVG, on peut s'attendre à des réactions assez fortes, hein, assez fortes, et puis teintées d'idéologie. C'est-à-dire que ça va être le contrôle, il est fait par des humaines et des humains avec leurs propres idéologies. Ensuite, il y a aussi pourquoi l'accès est éventuellement plus difficile à réduire, c'est qu'en fait, dans certains secteurs, donc là, nous, dans le Pas-de-Calais, pour information, tous les centres de planification fonctionnent et tous les centres IVG fonctionnent également. Les IVG médicamenteuses se font, les IVG par aspiration se font également, et de leurs propres mots, on sait aussi qu'il y a actuellement moins de demandes. Donc ça, c'est aussi inquiétant. Mais donc actuellement, dans le Pas-de-Calais, ces services, ils fonctionnent. Mais on fait peut-être sûrement partie des territoires dans lesquels ça fonctionne pas mal. Dans d'autres secteurs, plus ruraux, on va être amené à réduire très très fortement des activités de service. Donc même en considérant que l'IVG reste un soin urgent, il y a des professionnels de santé qui vont se voir affectés à des services entiers, qui vont être affectés aux malades du coronavirus. Actuellement, nous, dans le Pas-de-Calais, on fait un peu une veille régulière en appelant les centres IVG. On se tient aussi en contact régulier avec les centres de planification du Pas-de-Calais, hein, qui sont gérés par le département. Donc, on sait que, notamment, il y a des adaptations pour les personnes qui pourraient encore passer en IVG médicamenteuse, donc moins de 5 ou 7 semaines de grossesse. Parfois on peut les inviter à plutôt choisir l'IVG médicamenteuse, donc ça, même si on comprend tout à fait, alors j'explique aussi pourquoi on peut inviter des personnes à choisir plutôt l'IVG médicamenteuse actuellement, c'est parce qu'en fait il n'y a pas nécessité d'avoir d'accès à une anesthésie locale ou générale pour une IVG médicamenteuse, alors que pour une aspiration, il y a une anesthésie locale ou générale. Hein. Donc, on va parfois fortement recommander une IVG médicamenteuse pour une personne qui peut encore y accéder pour éviter d'occuper un lit ou du matériel d'anesthésie qui serait nécessaire pour une IVG par aspiration. Les adaptations sont aussi parfois on conserve les anesthésies générales pour les personnes mineures, c'est-à-dire qu'une personne majeure aurait de ce fait moins possibilité d'accéder à une anesthésie générale pour une aspiration, même si elle le voulait. Voilà. Donc ça, c'est des adaptations qu'on comprend tout à fait au sein des services. Enfin, c'est-à-dire que on comprend que ces services-là aient besoin, vu les moyens qu'ils ont. C'est pas du tout du fait des professionnels et du fait qu'ils aient pas envie de faire des IVG. Hein. C'est que eux, ils sont sur le terrain obligés de s'adapter, vu les moyens qu'on leur donne, qu'ils ont et ces moyens qui s'amenuisent au sein des hôpitaux depuis des années et des années. Donc voilà, ils sont obligés de faire eux-mêmes des adaptations et de ce fait, ça réduit la qualité des soins proposés aux personnes qui souhaiteraient avoir accès à une IVG. Voilà. Ensuite, on arrive au en tout cas une des dernières raisons qu'on a pu identifier, mais c'est aussi les personnes victimes de violences au domicile ou les personnes qui ne souhaitent pas en parler à la maison, les personnes mineures qui sont dans leur famille ou qui vivent avec des personnes qui ne comprendraient pas leur choix d'IVG ou alors qui risqueraient des violences en fait si elles disaient à leur famille ou alors conjoints, enfants, les personnes avec qui elles vivent, qu'elles sont enceintes et qu'elles souhaitent avorter, on n'est pas toujours bienvenu. On est en contact avec des personnes mineures qui souhaitent attendre la fin du confinement pour vérifier si elles sont bien enceintes et ainsi faire leur IVG. Sauf qu'on les prévient aussi du fait que à la fin du confinement, on sait pas déjà combien de temps ça va durer et ce sera peut-être trop tard pour accéder à une IVG en France. Donc là, on va de ce fait-là dépasser des délais, s'orienter. Si c'est ce choix qui est fait, c'est-à-dire qu'on s'oriente vers une IVG à l'étranger, mais ça veut dire que c'est des soins coûteux qui ne sont pas remboursés. L'IVG à l'étranger n'est pas remboursé par la sécurité sociale en France. Et donc c'est voilà, on va avoir un effet un peu de mise sous le tapis des réalités actuelles qui vont ressurgir dans quelques semaines, dans quelques mois, qui risquent d'être assez assez compliqués à gérer. Voilà, donc une personne victime de violence ou une personne mineure qui à la maison ne souhaite pas, ne peut pas en parler avec les personnes avec qui elle vit, bah c'est aussi une des raisons qui rendent l'accès encore plus difficile à la contraception et à l'IVG. En période de confinement. Voilà.
Dans un communiqué du 25 mars, le planning familial 38 explique qu'un amendement visant à allonger de 2 semaines le délai légal de l'IVG, le temps du confinement, a été rejeté par le gouvernement vendredi dernier. Peux-tu nous en dire plus sur ce que les féministes proposent pour l'IVG et les réactions du gouvernement face à cette situation ?
Donc, en termes d'adaptation concernant les questions d'IVG pendant le confinement, il y a une députée du Parti Socialiste, Laurence Rossignol, qui avait demandé à ce que il y ait une prolongation de 2 semaines concernant les délais pour faire une IVG pendant le confinement. Voilà, c'était une demande provisoire pendant le confinement. Ça a été d'abord rejeté. Pour proposer ensuite, donc ça s'est passé tout récemment, pour proposer ensuite que soit prolongé le délai pour accéder à une IVG médicamenteuse à domicile. Donc le délai a été allongé à 9 semaines de grossesse. Simplement, tout ça, ça ne concerne que les personnes qui pourront faire leur IVG médicamenteuse à domicile. Parce qu'une IVG médicamenteuse à domicile, ça nécessite d'être accompagnée de personnes qui sont au courant de notre démarche, qui sont éventuellement d'accord, ou en tout cas qui sont au moins en soutien, et qui ne vont pas qui vont être bienveillantes avec nous, en fait. Donc, ça veut dire qu'on est toujours par exemple, la catégorie des oubliés, bah, ça reste les personnes mineures qui sont au domicile avec leurs parents ou leurs tuteurs, tutrices, et qui ne peuvent pas en parler, voilà, et qui peuvent du coup pas du tout être soutenues pour cette IVG médicamenteuse à la maison. Enfin, une IVG médicamenteuse, on saigne, ça provoque comme une fausse couche, en fait, hein, donc... ça peut parfois être douloureux, on a besoin de soutien physique, psychologique parfois. La proposition d'allonger ce délai pour les IVG médicamenteuses à la maison, donc c'était aussi bien pour essayer de donc désengorger les hôpitaux, sauf que ça oublie encore une catégorie de personnes, des catégories de personnes, hein, parce que là je parle des mineurs, mais je parle voilà les personnes qui sont victimes de violences à la maison, non seulement elles sont encore plus surveillées qu'avant. Mais en plus, cet accès à l'IVG pourra pas être possible. Une aspiration en centre IVG pourra pas être possible. Voilà. Donc la démarche, le combat n'est pas terminé. Puis il y a eu les propositions aussi de communiqués, de collectifs féministes et autres qui ont dit bah nous on souhaiterait en fait que les délais pour accéder à une IVG soient prolongés d'autant de semaines que durera le confinement. Parce qu'une personne se rend compte de sa grossesse actuellement et qui était déjà enceinte avant le confinement, et ben là, comme on sait pas quand est-ce qu'on va sortir, en fait déjà ça veut dire que potentiellement le délai des 9 semaines qui est actuellement possible, bah c'est dépassé. Il reste 3 semaines pour pouvoir trouver une place dans un endroit et qui va pouvoir nous faire une aspiration. Enfin voilà, il y a eu aussi la possibilité, enfin les propositions qui ont été faites de demander à ce que, à la sortie du confinement, les personnes puissent systématiquement, si elles le souhaitent, faire une interruption médicale de grossesse également. Ce qui est actuellement possible, hein, c'est dans la loi. Les interruptions médicales de grossesse peuvent se faire au-delà de 12 semaines de grossesse si l'état de santé de la personne enceinte le justifie. Mais donc c'est actuellement dans la loi. Et la proposition temporaire, c'était que à la sortie du confinement, toutes les personnes qui le souhaitent puissent accéder à ce qu'on appelle une IMG, du coup une interruption médicale de grossesse. Et l'IVG, c'est un soin urgent. Si vous souhaitez y accéder, c'est important de pouvoir y accéder. Et n'hésitez pas à appeler le planning familial, donc ça c'est le planning familial dans le Pas-de-Calais, en tout cas c'est 03 21 28 43 25. Les centres de planification du département sont également joignables au 03 21 216 216. Et puis les centres IVG sont joignables aussi. Nous, quand on nous appelle pour avoir les contacts des centres IVG, on vous les donne, on vous oriente vers le centre IVG qui sera le plus adapté à vous selon votre situation. Voilà. Pensez à vous, c'est très 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 important. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie.
Web Radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Sans un sou, les yeux se font flous. Même entre vous et nous, elle préfère son doudou. Qui ne pourra être soigné sans un sou et sans vous et nous. Mais entre vous et nous, sans joie et sans un sou, que penser de l'humain
comme personne se tend la main?
Car elle est née sans un sou au milieu du Darfour. Yalla, viens faire un tour
avec toi et un peu d'amour.
Musique libre dans ce micro rebelle hebdo, on vient d'écouter Akilou chanté par 6 février 1985. Je ne sais pas si vous le savez, mais durant le confinement, Microrebelle met en place un répondeur téléphonique au 03 74 71 24 87. Vous pouvez donc appeler librement pour donner des conseils, livrer vos états d'âme, chanter, raconter, lire, etc. Ensuite, nous récupérons vos messages, nous les mixons et cela donne une production collective chaque semaine, disponible sur micro-rebelle.fr. Ça s'intitule « Chronique d'un confinement ». Vous avez un nouveau message. Je vous propose d'écouter la dernière de ces chroniques, la cinquième depuis le début du confinement.
Bonjour, je vous propose aujourd'hui de faire la différence entre deux mésanges de nos jardins. Nous avons la mésange bleue. La mésange bleue, elle a le ventre jaune. Le ventre jaune est, vous doutez un peu de la couleur de ses ailes et de la calotte, le dessus de la tête, elle est bleue, bien sûr. Et son chant, quel est son chant ? Nous avons aussi la mésange charbonnière. Elle aussi, elle a le ventre jaune. Sauf qu'il y a un grand trait noir devant. Et sa tête, sa calotte, elle est noire. Et ses ailes, elles sont noires, plutôt sombres. C'est la mésange charbonnière. La mésange charbonnière noire, la mésange bleue, bleue. Ça devrait aller, non ? Et le chant de la mésange charbonnière, il est comment ? Il est comme ça. Et voilà, à demain.
Bonjour, je vais vous lire un extrait de Kilomètre Zéro, un roman de Maud Ankawa. Alors, l'état positif, il se travaille comme le corps. Si tu souhaites te sculpter, tu devras exercer chaque jour tes muscles et être attentive à ton hygiène de vie. Ce n'est pas en pratiquant une demi-heure de sport par mois et en ingurgitant des aliments gras que tu obtiendras le résultat escompté. Pour l'esprit, c'est pareil. Il te faut surveiller chaque jour tes pensées en tentant de ne pas te laisser polluer par le négativisme. Être positif, c'est arriver à contrôler nos peurs, croire en nos rêves, les visualiser et laisser entrer les opportunités.
On dit que la musique adoucit les mœurs, elle apaise aussi les tourments. Or, en ces temps de confinement, fatigue morale et déprime passagère nous touche d'autant plus facilement que nous sommes pour bon nombre désœuvrés. Donc, musicothérapie express, avec d'abord pour soigner les poussées d'angoisse, les mélopées de Kora du malien Toumani Diabaté. Je recommande l'album Kaira, ainsi que celui en duo avec Balaké Sissoko, dont est extrait ce Salamane. Ensuite, pour stimuler la spiritualité, se laisser aller à la contemplation si chère aux philosophes grecs, je conseille un trompettiste prolifique et audacieux que j'aime beaucoup, Christian Scott, dit Atunde Adjoua. Je vous laisse fouiller dans sa discographie, c'est le plus simple. Un avant-goût quand même, Diaspora, de l'album éponyme. Enfin, pour décharger le trop-plein d'énergie, un seul remède. Il est disponible sur le net en accès libre sur le site Bandcamp. C'est le Nigeria 70, No Wahala, High Life, Afrofunk et Juju de 1973 à 1987. Là, il va falloir pousser les meubles du salon, mais ça fait du bien. J'en veux pour preuve ce Obonokbozu de Osayomore and the Creative Seven. Mais tout est efficace et sans effet secondaire, vous pouvez y aller les yeux fermés.
C'était donc Chronique d'un confinement sur le répondeur de Micro-Rebelle au 03 74 71 24 87. Pour la semaine qui vient, on vous propose de continuer à nous laisser vos messages avec une consigne: parler du monde d'après. Pas forcément de l'après-Covid, mais plutôt avec l'intention de se rapprocher des utopies, avec l'envie de toucher une réalité proche de ce monde qu'on imagine meilleur. La compilation de vos messages alimentera une chronique diffusée à l'occasion du 1er mai en ligne avec l'association Colère du Présent. Je vous rappelle donc le numéro du répondeur: 03 74 71 24 87 et la consigne: parler du monde d'après. On termine ce Micro-Rebelle Hebdo avec un extrait d'un reportage concernant la continuité pédagogique. Dès lundi prochain, l'école reprend, ou plutôt l'école à la maison, autour de ce que le ministre a appelé la continuité pédagogique. Micro-Rebelle a interrogé plusieurs enseignantes et enseignants du primaire et du secondaire à ce sujet. N'hésitez pas à retrouver l'intégralité de ce reportage sur notre site. C'est un reportage signé Luc. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Micro-Rebelle Hebdo. Bye bye.
Je m'appelle Maude Beauvois, je suis professeure de lettres classiques au lycée d'Arras de Liévent. Donc concrètement, cette année, j'ai 4 classes, des secondes en français, des premières en français et en spécialité, et également des terminales en latin. Et donc actuellement, je suis confinée donc avec mon mari qui est en télétravail à temps plein, et mes 2 filles, une en maternelle et une en CP.
Je suis Catherine Piécuche, donc je suis professeure d'allemand au collège Georges Brassens à Saint-Venant, et puis je suis également secrétaire de la FSU Pas-de-Calais.
Moi, je m'appelle Vincent Gosselin, je suis professeur de sciences industrielles de l'ingénieur au lycée Henri Darache de Liévin. J'ai des secondes en sciences numériques, c'est une nouvelle discipline qui est apparue avec la réforme du lycée. En tout, j'ai 154 élèves en fait à suivre.
Je suis Nicolas, je suis professeur des écoles, brigade, c'est-à-dire remplaçant.
Je m'appelle Hubert Sauvage, donc je suis professeur de philosophie et de cinéma au lycée Henri Darache de Liévin.
Je suis Florian Rivello, je suis prof de SVT en collège et j'ai à peu près 280 gamins à gérer.
Alors je m'appelle Pauline, je suis enseignante en zone prioritaire en REP plus sur Roubaix. J'ai actuellement un CP, ce sont des CP dédoublés à 12 à 14 élèves.
Jeudi 12 mars, le président de la République a annoncé la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités. Annonce contraire à celle du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, la veille. Si on reconnaît le caractère inédit de la situation et la nécessité de ces fermetures pour le bien de la santé de toutes et tous, de nombreuses critiques pointent un manque de préparation et d'anticipation des institutions, avec par exemple des interfaces numériques saturées, des injonctions contradictoires de la hiérarchie, des carences en moyens et outils pédagogiques. La posture d'incitation au travail et à la continuité pose question, d'autant qu'elle fait fi des inégalités sociales, de la fracture numérique, des risques psychosociaux liés à l'utilisation des écrans. Nous avons donc contacté plusieurs enseignants du primaire et du secondaire à Liévin, Saint-Venant ou encore Roubaix. Ils nous livrent d'abord leurs expériences d'une école à distance et d'une continuité pédagogique dont on se demande si elle est possible.
Alors au niveau de la continuité pédagogique, déjà la première chose à dire, c'est qu'il y a eu énormément de bugs, de ratés au démarrage, en quelque sorte, puisque finalement les outils n'étaient pas prêts, les élèves n'avaient pas leur code. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu également en tant que parent d'élève, c'est-à-dire que la première semaine pour suivre les devoirs de ma fille sur le NT, ça a été un capharnaüm pas possible. Ensuite, une fois que les élèves se sont connectés, concrètement, moi j'arrive à poster des contenus via les supports traditionnels, donc c'est-à-dire utiliser principalement Pronote pour nous. Le problème qui se passe, c'est déjà au niveau de l'organisation du temps de l'enseignant, parce que là, concrètement, pour vous dire, cet après-midi, je vais travailler de 14 à 17 heures, puisque j'ai un système de roulement avec mon mari. Et donc, en même temps qu'essayer de travailler, je suis sans cesse interrompue par les questions d'élèves. Donc ça morcelle énormément le travail, surtout qu'on est en année de réforme. Moi, il y a plein de supports que j'ai pas, en fait, que je dois créer. Donc on perd beaucoup de temps parce qu'on doit à la fois travailler, répondre aux élèves, donc faire beaucoup de choses sur des supports différents. Et puis la grande interrogation, c'est que font réellement les élèves chez eux, puisque pour certains, on a des questions qui arrivent ou des retours d'exercices. Et puis pour d'autres, c'est le silence radio sans qu'on sache vraiment si c'est dû à un problème technique, un problème d'organisation familiale, un problème de difficulté. Donc finalement, moi par exemple, ma classe de première, je peux vous dire qu'ils sont tous connectés concrètement à Pronote. Par contre, ce qu'ils font réellement chez eux, ça c'est l'interrogation totale. Donc pour ce qui est de la continuité pédagogique, je pense que c'est totalement impossible de déterminer quelles sont les difficultés des élèves, quels sont leurs rythmes, parce qu'ils n'ont pas, enfin tous n'ont pas le réflexe de venir vers nous, donc on avance finalement totalement à l'aveugle.
Donc depuis le confinement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes collègues et moi, en fait, naturellement, on va dire, de façon assez autonome, on a mis en place chacun avec, à sa façon, une continuité pédagogique. On communique surtout via Pronote, par des fils de discussion, et c'est par là qu'on voit que des collègues choisissent tantôt le CNED, tantôt de créer un Padlet, ou tantôt de faire une classe virtuelle, ou etc. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je donne chaque jour, en fonction de l'emploi du temps qui serait normal, du travail sur le cahier de texte de Pronote, parce que je me dis que c'est l'outil normalement officiel. Et chaque jour, je demande aux élèves de m'envoyer, enfin aux élèves concernés, de m'envoyer le rendu des travaux sur ma boîte mail académique personnelle. Donc ça demande beaucoup plus de travail que d'habitude individuellement pour chaque élève. Et la majeure partie, il faut quand même le dire, joue le jeu. Il y en a vraiment très peu qui rendent rien. Et ensuite, pour faire les corrections, faut tout taper, toutes les explications, faut les taper. Donc ça prend beaucoup plus de temps, parce que quand on est en cours normal, c'est des démonstrations qu'on fait au tableau. Et surtout, faire un suivi individuel des élèves, parce que les élèves, il y a des élèves qui comprennent plus ou moins bien et qui reposent des questions par la suite via mail ou par téléphone. Donc quand on a beaucoup d'élèves, ça prend beaucoup de temps.